Laudetur Jesus Christus.
Les chrétiens d'Orient s'apprêtent à célébrer Noël dans un contexte d'incertitude. C'est le cas en Syrie après la chute du régime de Bachar al-Assad. Nous entendrons l'espoir en un futur meilleur en évitant l'écueil de la vengeance formulée par la directrice de la plus grande école chrétienne de Damas. L'incertitude, elle marque aussi les chrétiens d'Irak. C'est ce que nous confiera le patriarche chaldéen, le cardinal Sacco. État d'urgence prolongé d'un mois en Haïti, l'objectif demeure le même, lutter contre les gangs qui tiennent en coupe réglée une partie de la capitale et du pays, mais les résultats peinent à se faire voir. Et puis la Belgique, toujours sans gouvernement depuis les législatives du 9 juin, les négociations entre les partis de droite et de centre-droit susceptibles de former une coalition s'éternisent. Un accord pourrait toutefois intervenir d'ici le début du mois de janvier.
Radio Vatican, le journal... Xavier Sartre.
Bonjour. Les chrétiens du Proche-Orient s'apprêtent donc à célébrer Noël dans un climat marqué par l'incertitude, que ce soit en Cisjordanie, à Gaza, au Liban ou en Syrie. La guerre et les bouleversements politiques plongent ces communautés fragiles dans l'incertitude. À Damas, l'école Al-Riala, le plus grand établissement scolaire chrétien de la capitale syrienne, ce lundi, célèbre les 1600 élèves, fête la nativité dans cet établissement. Si les plus petits chantent dans leur classe, les plus grands, eux, organisent des opérations humanitaires dans leur quartier. Cette période est évidemment marquée par l'espérance. Et cette année, plus spécifiquement par l'espérance, on a un futur meilleur pour la Syrie, comme en témoigne Sœur Jihan Atala, la directrice de l'école.
Nous, en tant que peuple syrien, on est passé par plein d'épreuves, des guerres, des séismes, plein de choses. Et c'est toujours l'espérance qui nous donnait la force. Alors cette période maintenant qui est un peu ambiguë, c'est une raison de plus de vivre dans l'espérance, de vivre dans la confiance en Dieu seul. Chacun doit être un acteur dans cette série. Je commence par ce que je peux faire. Moi, à mon avis, le premier pas à faire maintenant en Syrie, c'est le pardon. De vivre dans le pardon parce que c'est vrai que le régime ancien, c'était un dictateur. Mais maintenant, on ne veut pas, en tant que peuple, aussi refaire une deuxième vengeance. Donc, notre rôle maintenant, c'est la réconciliation. Il y a à dire, on va vivre ensemble. Bien sûr, il faut qu'il y ait la loi, mais que ça soit passé par la loi et non pas par la vengeance.
Des propos recueillis par Jean-Charles Puzolu. Quelle espérance, en revanche, à Gaza. Après plus d'un an de guerre et de destruction systématique par l'armée israélienne, les habitants du territoire palestinien manquent de tout. En 2 mois et demi, seuls une dizaine de camions d'aide humanitaire ont pu distribuer de l'eau et de la nourriture dans le nord de la bande. C'est ce qu'affirme l'ONG Oxfam, qui parle de retard délibéré et d'obstruction systématique de la part des soldats israéliens. Les chrétiens d'Irak s'apprêtent eux à célébrer la nativité dans un climat d'incertitude et de préoccupation. Ils regardent avec crainte les bouleversements en cours dans les nations voisines. Forte d'une présence millénaire dans cette terre entre le Tigre et l'Euphrate, berceau abrahamique, l'église chaldéenne veut croire à l'espérance de la paix. Elle élèvera ses prières en ce sens demain soir durant la nuit de Noël. Le cardinal Louis Raphaël Sacco, le patriarche des Chaldéens, nous confie aujourd'hui l'état d'esprit qui prédomine chez les fidèles du pays.
C'est un climat de préoccupation à cause de ce qui est arrivé en Syrie, le Liban, la Palestine. Donc, les gens ont un peu peur, un état d'attente. On ne sait pas demain qu'est-ce qu'il va arriver. Mais il y a beaucoup de temps pour la prière ces jours-ci, de retraite, de pénitence. Je crois que toutes nos églises seront pleines pour prier pour la paix dans le monde entier et surtout dans cette région-là qui brûle. Mais aussi d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. C'est un Noël d'espérance. Quand les anges disent paix sur la terre, c'est la terre de l'Irak, c'est la terre de la Syrie. du Liban, c'est la terre du monde entier. Je crois, nous avons besoin du support de nos frères et sœurs en Occident. Ne pas nous sentions que nous sommes oubliés ou laissés seuls. Parce que si le système est tribal et aussi sectaire, sauf que les chrétiens n'ont pas d'autre appui que l'Église. Et nous avons besoin des visites, des délégations, d'évêques, de prêtres, un soutien spirituel, moral, parfois aussi matériel.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Les évêques l'avaient prié de le faire, tout comme de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme. Aux États-Unis, le président Joe Biden a commué ce matin la peine de 37 condamnés à mort par la justice fédérale. Le 8 décembre, lors de l'Angélus de l'Immaculée Conception, le pape avait demandé également à prier pour ces détenus pour que Joe Biden commue donc leur peine. Haïti, toujours confronté à la violence des gangs, surtout dans la capitale Port-au-Prince, les autorités de transition ont décidé de prolonger l'état d'urgence sur tout le territoire national jusqu'au 21 janvier. Les précisions de Franz Emmanuel.
L'état d'urgence en Haïti, un mois encore, avec en toile de fond la lutte contre l'insécurité. Voilà qui rassure à peine la population haïtienne, chaque jour mise à mal par la violence. Dernier exemple d'envergure, le saccage d'un hôpital incendié la semaine dernière par le gang Vive Ensemble, une bande de meurtriers que l'état d'urgence en vigueur depuis plusieurs mois était censé combattre. Sur le papier, la mesure doit permettre une mobilisation de toutes les ressources pour éradiquer la criminalité, avec parfois quelques avancées. L'aéroport international Toussaint Louverture à Port-au-Prince vient tout juste de reprendre du service partiellement. Il avait été fermé en novembre suite à des tirs sur des vols commerciaux. Ce nouveau mois d'état d'urgence sera-t-il couronné davantage de succès ? Bien difficile de le dire. À ce jour, la force multinationale pilotée par le Kenya n'a pas connu de succès probant depuis son déploiement à Port-au-Prince à la fin du mois de juin. Fort-de-France, Franz-Emmanuel, Radio Vatican.
Trêve pour Noël en Colombie, l'armée de libération nationale, l'ELN, dernière guérilla active dans le pays, a annoncé un cessez-le-feu unilatéral pour la fin de l'année. Il commence aujourd'hui, il se terminera le 3 janvier. L'ELN avait repris la voie des négociations avec le gouvernement en novembre sans baisser les armes pour autant. Pas de pause dans la violence au Mexique. Samedi, 17 personnes ont été assassinées dans l'état de Guanajuato, annonce faite hier par le parquet. Trois attaques ont eu lieu dans trois villes différentes. La justice n'a pas donné de précision sur les auteurs ou les mobiles, mais cette région très touristique est le théâtre d'affrontements entre un groupe mafieux local et un cartel originaire de l'état voisin de Jalisco. 200 jours que les Belges attendent un gouvernement. Depuis les législatives du 9 juin, les cinq partis de droite et de centre-droit, qui seraient en mesure de former une coalition majoritaire, ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un projet commun de gouvernement. Mais la situation pourrait se débloquer dans les prochains jours et une équipe être formée au début du mois de janvier. À Bruxelles, Jean-Jacques Guéry.
Les médias belges n'arrivent plus à compter le nombre de visites effectuées par Bart De Wever au Palais Royal. Celle de vendredi dernier était la 14e selon certains, la 16e disent d'autres, pour celui qui a été nommé formateur en charge des discussions de coalition. C'est à ce titre que le chef de la NVA, les conservateurs flamands, doit rendre compte régulièrement au roi Philippe de l'avancée des négociations entre les cinq partis théoriquement prêts à passer un accord. Autour de la table, les conservateurs du NVA, les chrétiens démocrates et les socialistes côté flamand, les libéraux du MR et les centristes côté wallon. Et malgré des rencontres quotidiennes, il y a toujours des désaccords entre eux, essentiellement sur des questions budgétaires. Il faudrait dégager 20 milliards d'euros pour assainir les comptes belges, mais avec quelles économies et quelles recettes supplémentaires ? C'est toute la question, alors que les libéraux refusent toute hausse d'impôts, quand les centristes et les socialistes rechignent, eux, à faire des économies sur le système de santé fédéral, le droit d'asile ou encore l'assurance chômage. Même si pour le moment, on est encore loin du record de 2010-2011 avec 541 jours sans gouvernement, le roi des Belges, lui, semble commencer à se lasser, disant espérer une percée décisive début 2025. Et alors que les négociations doivent reprendre aujourd'hui, nul doute que les téléphones des politiques belges vont chauffer pendant toute la période des fêtes. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, pour Radio Vatican.
Malgré la forte poussée de l'extrême droite aux dernières législatives, le 8 décembre, c'est le Premier ministre sortant, le social-démocrate Marcel Ciolacu, qui a été reconduit ce matin à la tête du gouvernement. Un accord de coalition contre l'extrême droite a été conclu. Les Français doivent encore attendre avant de connaître la composition de leur gouvernement. Elle pourrait être annoncée ce soir. En attendant, le pays observe un deuil national en mémoire des victimes du cyclone Chido qui a dévasté Mayotte il y a 10 jours. Les opérations de secours se poursuivent. Officiellement, 35 personnes ont perdu la vie. Mais le bilan pourrait être revu à la hausse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h heure de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.